Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les différents acteurs de la filière bois s'organisent pour mieux se structurer. Ils viennent de lancer le projet Interbois NC dans le cadre de l'appel à projet France 2030. Alors quelles sont leurs ambitions et dans quel but s'organiser? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec nos quatre invités. Julien Barbier qui est le directeur adjoint de l'agence rurale, Manuel Henry qui est gérant de HMC et référent bois du cluster éco-construction, Charles Lheureux, directeur de Bois du Nord et vice-président du groupement des forestiers calédoniens qui sont en plateau avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et puis nous sommes en ligne avec Olivier Guérin, le directeur de Sud-Forêt, qui est lui sur la route et qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour voir effectivement quels sont les enjeux de la structuration de cette filière bois. Avant de voir les étapes qu'il faut franchir et ce qu'il reste encore à faire pour aboutir à cette structuration, peut-être rappeler que, je l'ai dit dans le lancement, ce projet Interbois NC a été lancé dans le cadre à l'appel à projet France 2030. Est-ce que l'un d'entre vous peut rappeler en quoi consiste ce projet France 2030 ? Julien Barbier ?
D'accord. Donc à nouveau, bonjour. Bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation. Donc effectivement, le projet dont on parle aujourd'hui, qui s'intitule Interbois NC, a été porté dans le cadre de France 2030, d'une part. Donc il est porté dans un premier temps par un consortium qui regroupe le cluster éco-construction, le groupement des forestiers calédoniens et l'agence rurale. Au niveau des financements, le tour de table a pu être complété avec une contribution du gouvernement via le fonds assurance qualité de la construction, mais aussi des financements complémentaires obtenus via l'ADEME, l'ACE, et des contributions des intéressés directement, à savoir les charpentiers et les forestiers.
En fait, ça veut dire qu'il y a déjà de nombreux acteurs qui sont structurés entre eux, enfin qui sont structurés chacun d'eux, mais pas entre eux. C'est bien ça, c'est trouver les passerelles, en fait.
C'est exactement ça, et en fait, c'est vraiment le constat de départ qui a été partagé et qui a permis le lancement vraiment de ce projet-là, et notamment qui s'appuie sur une étude de marché qu'on a pu réaliser en 2024 et qui a pu confronter notamment l'offre de la production locale, issue de la production locale, et l'attente de la consommation, et en particulier des collègues charpentiers, et qui convergeait en fait vers qui a permis d'identifier des leviers, et au premier rang desquels figure de pouvoir aborder ces questions-là de manière collective, puisqu'on avait effectivement une structuration, je dirais, embryonnaire, à la fois de l'amont...
Un peu empirique.
Exactement. À la fois l'amont autour du groupement des forestiers, accompagné en cela par l'agence rurale depuis un certain nombre d'années, et l'aval, notamment via les charpentiers au sein du cluster éco-construction. Et là, aujourd'hui, il s'agit vraiment de mailler l'ensemble de la chaîne, de la filière.
Alors, qui sont tous les acteurs? Alors, vous avez cité les institutionnels, entre guillemets, les gens regroupés, mais quels sont les métiers concernés aujourd'hui par cette structuration de la filière du bois, Charles Lheureux?
Bonjour à tous. Effectivement, les métiers intéressés sont essentiellement les forestiers. On a aussi les scieurs, la première transformation. On va aussi... tout ce qui est les acteurs de la plantation, de la construction, les paysagistes, jusqu'au bureau d'études, en passant par les menuisiers, et également aussi le client public.
Donc, quand on parle de filière, c'est une vraie filière, il y a de nombreux acteurs.
Voilà, il y a de nombreuses filières. Si on vient à faire un peu l'énumération de tous les métiers, on est à plus de 20 métiers. Qui ont un rôle tous à jouer pour pouvoir développer une filière calédonienne pour mettre en œuvre un bois durable dans les bâtiments calédoniens.
Alors, quel est l'état aujourd'hui des plantations de la sylviculture, puisque pour pouvoir avoir du bois, il faut planter des arbres. On sait qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites, il y a des choses qui existent dans le nord, dans le sud, un peu partout. Manuel Henry, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la production de bois, c'est-à-dire la production d'arbres?
Alors, c'est pas tout à fait ma partie, mais il va me corriger si je me trompe, Charles, parce que c'est lui qui va en forêt abattre les bois. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il y a une grosse ressource qui a été plantée effectivement il y a une quarantaine d'années et qui est à maturité aujourd'hui, sur le plateau de Tango essentiellement. Après, il y a d'autres gisements dans le sud aussi, mais essentiellement sur le plateau de Tango, avec un bois qui a eu un gros travail de fait par l'agence rurale et les forestiers pour le certifier. Et c'était un peu le frein essentiel qu'il y avait pour nous de pouvoir l'utiliser, c'est qu'il n'y avait pas de certification, du coup on ne pouvait pas être assuré par rapport à un éventuel sinistre sur cette production de bois.
Donc, la certification, porte sur quoi? Exactement. Alors, Charles Lheureux.
Je vais reprendre le relais. Merci. La certification, elle est vraiment là pour donner un référentiel qui va porter sur le bois d'œuvre calédonien.
C'est-à-dire du bois destiné à la construction.
Tout à fait. Mmh. Destiné à la construction sur un aspect structurel et également un aspect durabilité. Cette certification, ça fait plus de 8 ans qu'elle existe sur le territoire. Elle s'appelle le CTBNC. C'est ce qui permet de pouvoir garantir les produits en pain calédonien transformé. C'est une certification qui est aujourd'hui reconnue internationalement et qui a été établie par le FCBA via le COFRAC. Mmh.
Alors, nous sommes en ligne avec Olivier Guérin, qui est lui le directeur de Sud-Forêt, qu'on a salué en début d'émission. Aujourd'hui, quel est l'état, pareil, de la ressource bois en Nouvelle-Calédonie, Olivier Guérin ?
Oui, bonjour à tous. Merci à RAB pour l'invitation et de consacrer cette émission à la filière. Donc, effectivement, le massif forestier en Calédonie a été installé dans les années 60-70. Une grande partie est désormais mature. Une autre est en cours de croissance, et notamment les parcelles gérées par Sud-Forêt. Et donc le massif, alors je parlerai pas pour la province nord, mais en province sud, le massif en cours de croissance est éclaté du nord au sud. Ça part de moins doux jusqu'à Yaté-Mont-d'Or. Donc on a des parcelles notamment de pins. C'est le pin des Caraïbes qui alimente la filière bois principalement aujourd'hui. Et donc, ces parcelles matures sont exploitées par les exploitants scieurs de la province. Et donc, nous vendons le bois sur pied. C'est du bois de qualité qui a été, dont la qualité a été reconnue par les différentes études menées avec le FCBA. Donc, des qualités structurelles, des qualités mécaniques équivalentes, voire supérieures au pain importé. Avec des aptitudes différentes au collage notamment. Et donc c'est un bois de qualité que l'on produit en Calédonie, à savoir il faut juste désormais savoir l'utiliser à bon escient, mettre les bonnes sections, et nous les professionnels de la filière à garantir aux consommateurs que le bois qui est produit et de qualité, et sa première transformation ou sa deuxième transformation est faite selon des règles établies et respectées, ce qui est le cas avec la certification. Donc les bois que l'on produit en Calédonie, je parle des forêts, et de qualité, c'est reconnu. Et voilà, c'est un peu le constat à ce jour de la filière et du bois local pour ce qui concerne le pin des Caraïbes surtout.
Merci beaucoup Olivier Guérin, vous restez évidemment avec nous pendant cette émission. Voilà, donc on a vu que le bois calédonien est de bonne qualité, qu'il a les certifications nécessaires. Est-ce qu'on sait, Manuel Henry, j'espère cette fois-ci vous solliciter à bon escient, est-ce qu'on sait aujourd'hui le volume de bois utilisé en Nouvelle-Calédonie, notamment dans la construction ? Est-ce qu'on a des chiffres ?
Alors oui, il y a des chiffres qui datent peut-être un peu périmé aujourd'hui parce que ça date de 2023, où la consommation de bois annuelle en Calédonie était élevée à 20 000 m3 par an. À cela, une production locale d'environ 5000 m3 à l'époque, 4000-5000 m3, tu me corriges si je me trompe.
Très bien.
Et donc l'idée, voilà, c'est de, à titre d'exemple, en Polynésie, ils sont à 40000 m3 de consommés par an, donc c'est le double. Et ça reste un territoire un peu similaire au nôtre, donc il y a une marge de manœuvre, et le but de développement de cette filière, c'est de redonner confiance aux acteurs et aux différents concepteurs de chantiers, enfin de logements, de pouvoir construire en bois. L'idée n'est pas de supprimer le béton ou le métal, mais d'avoir sa place, et c'est tout. Donc actuellement, on doit être peut-être à 5% de construction bois, et l'idée, c'est de passer peut-être à 10.
Mais parfois, ce sont aussi des matériaux qui se complètent dans des constructions.
Tout à fait.
On peut faire des mix, j'imagine.
Le bois a ses qualités et ses défauts, et inversement, le métal aussi, le béton, et chacun pourra être utilisé à bon escient.
Alors, si j'ose dire, le premier défi, finalement, pour que cette filière se structure et qu'il y ait une sorte d'autosuffisance en bois en Nouvelle-Calédonie, il y a la question, évidemment, de la plantation. Il faut du foncier. Un arbre, quand on le pousse, il n'est pas arrivé à maturité 2 mois plus tard. On s'inscrit dans un temps long. Est-ce que tout ça aujourd'hui est suffisamment bien géré par les acteurs de la filière bois pour se dire qu'au moins la production est assurée et pérenne ? Julien Barbier.
je vais dire oui, est développé. Donc, tout d'abord, ce que je voulais repréciser en élément de contexte, c'est qu'on parle d'une filière, la première filière d'exploitation et première transformation, c'est une filière relativement jeune, quelque part, puisque c'est une filière qui a vraiment, au niveau des scieries, dû se remettre en question sur les 20 dernières années, passant de l'exploitation des bois issus de fumerais naturels, donc plutôt ce qu'on qualifie de bois noble, vers l'exploitation et transformation, valorisation, aujourd'hui du pain local, comme ça a été dit, qui arrive à sa pleine maturité. Donc l'enjeu, c'est sur la base de cette ressource-là, qui, comme ça l'a déjà été dit, a été tout à fait caractérisé il y a 4 ans en arrière. Ce qui a été caractérisé, en fait, c'est les 4 gisements principaux du pays qui sont à même de pourvoir aux besoins sur les 30 prochaines années.
Voilà,
on qualifie une essence sur une trentaine d'années, en fait. Et donc la ressource est là pour une trentaine d'années d'exploitation. Et derrière, donc, Olivier Garin a pu déjà le préciser, mais les collègues des services forestiers de la province Nord sont sur les mêmes missions. Il y a un travail de sylviculture qui est là pour le renouvellement. Donc on est vraiment sur une gestion durable de ressources, d'exploitation et plantation derrière.
Mmh. Le bois que vous utilisez, par exemple, vous, Charles Lheureux, à Bois du Nord, c'est du bois issu de la sylviculture ou du bois naturel, entre guillemets? Je mets évidemment tous les guillemets nécessaires.
Oui, alors, c'est de la sylviculture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des permis d'exploitation pour venir prélever les arbres sur des zones bien établies pour pouvoir les valoriser le mieux possible. Effectivement, c'est une ressource durable, durable et renouvelable, ce qui permet aussi de pouvoir développer une filière économique et sociale. Cette filière, elle sera aussi créateur d'emplois. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, elle représente déjà une vingtaine de métiers. Plus on aura de consommation pays, de bois local, plus on pourra créer des emplois et en même temps former des personnes. Aujourd'hui, cette filière, elle a été formée par des acteurs extérieurs, dont le FCBA, qui, pour des accompagnements, pour monter en compétences et créer une chaîne de valeur. Mmh. Aujourd'hui, ça serait, il faut qu'on continue dans cette démarche. Et justement, le projet d'Interbois est là pour rallier toutes les bonnes forces vives et tous les bons acteurs pour pouvoir travailler ensemble sur un chemin court et lointain, mais un chemin certain.
Parce qu'il faut arriver à marier le temps court et le temps long dans la filière que vous exploitez. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose
que la CE répète régulièrement et qu'on oublie, mais on est en plein réchauffement climatique et l'utilisation du bois à tous ces niveaux permet de piéger le CO2 et du coup de réduire l'effet de serre et du coup d'améliorer la santé de la planète, entre guillemets.
C'est le matériau idéal aujourd'hui pour vous en termes de construction par rapport à la situation de la Calédonie?
Oui, par rapport à la situation mondiale, je ne dirais pas que la Calédonie, mais voilà.
Mmh. Alors, oui. Oui, j'allais vous poser une question, Olivier Garin, on vous entend bien sûr, oui.
Non, c'était pour revenir sur la sylviculture, oui. Et la plantation et la sylviculture, que ce soit, on collabore avec les collègues de la province Nord pour justement appliquer une sylviculture qui vise à améliorer ou à fournir du bois de qualité aux exploitants scieurs et in fine aux charpentiers et aux consommateurs. C'est-à-dire que tous les travaux sylvicoles sont faits au moment où ils doivent être faits et ils sont faits régulièrement. Et ça va aussi dans le sens de la montée en compétence des entreprises de travaux, des employés que notamment Sud-Forêt peut qui peut faire appel pour les travaux sylvicoles. Et donc les bois que l'on consomme aujourd'hui, ce sont des bois qui sont arrivés à maturité, qui ont commencé à pousser dans les années 70 avec les travaux sylvicoles qui ont été faits dans ces années-là. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est légèrement différent que ce que l'on faisait il y a 30 ans. Et donc, les effets se verront progressivement avec l'arrivée à maturité des parcelles sur les 30 prochaines années, quoi.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose, Julien Barbier?
Oui, juste effectivement pour aussi tempérer le côté peut-être écologique du matériau, sachant qu'aujourd'hui, et à nouveau en termes d'éléments de contexte de marché, comme ça a été dit, on est sur un marché qui est peu dynamique en fait, qui s'est peu développé les dernières années, qui est plutôt en phase de contraction, hein, eu égard à la conjoncture économique depuis 3 ou 4 ans. Mais sur ce marché-là, en fait, il y a uniquement aujourd'hui on oscille entre 18 et 22% de fourniture sur de la production locale. Ça veut dire que une grande, grande partie du bois mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie est importée. Donc il est importé pour partie depuis la Nouvelle-Zélande, mais notamment eu égard à des exigences normatives qui ont pu s'appliquer jusque très récemment d'Europe. Donc on est vraiment sur des choses. Et donc c'est aussi tout l'enjeu de ce projet-là. C'est à la fois de pouvoir dynamiser, développer le marché du bois au sens large, au sein duquel, effectivement, le bois transformé issu de la production locale et à même de trouver sa place, puisque en fait, comme ça l'a été dit, il est tout à fait comparable en termes de qualité de résistance mécanique aux produits importés. Et l'idée aussi, c'est à la fois aussi de substituer partie des importations, mais surtout de travailler en complémentarité.
Mmh. Alors justement, c'est une question toujours importante, cette question des exportations, des importations, parce qu'il y a avec souvent les questions de taxes, de droits de douane, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le bois importé fait concurrence au bois local pour mettre un peu les pieds dans le plat, ou pas vraiment, Julien Barbier?
Moi, je peux en parler, parce que j'en pose, j'en utilise, j'utilise tous les bois importés, la plupart, et du coup, effectivement, non, c'est pas parce qu'on utilise où on pousse la filière locale qu'on va forcément plus utiliser les bois d'import, parce que pour l'instant je pense pas que les scieurs locales soient capables de fournir la quantité de bois nécessaire. En tous les cas, s'il y a plus de bois utilisé en Calédonie dans toute la construction, les importations augmenteront et la production locale aussi parallèlement. Donc,
c'est un équilibre à trouver en fait.
Tout le monde y trouvera son compte, en tout cas, donc je ne pense pas que les importateurs aient des raisons de s'inquiéter, à mon avis.
Charles Lheureux, là, sur ce point-là ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, aujourd'hui, comme on a pu le dire, on est entre 4 000 et 5 000 mètres cubes de consommé bois produit local. On se rend bien compte que sur 20 000 mètres cubes, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, la filière locale doit encore se développer, doit encore s'affirmer, montrer ce qu'elle est capable en termes de qualité et aussi de disponibilité aux clients. Mmh. Donc il y a de la place pour tout le monde. Faut juste tout simplement mettre le bois en bonne pratique selon les bonnes recommandations.
Même discours de votre côté, Olivier Guérin ?
Oui, effectivement.
Sur cet équilibre entre bois local et bois importé, hein.
Ben, en fait, oui, effectivement, de toute façon, le marché s'équilibrera. Les ressources locales en bois ne sont pas ce qu'elles sont en Nouvelle-Zélande ou même sur Fidji ou en Europe. On fournira ce que l'on peut fournir. Mais c'est important pour nous de jouer la carte de la filière, pour les consommateurs aussi, de jouer la carte de la filière locale, notamment pour que l'argent dépensé dans le bois reste dans le pays et puisse bénéficier à des emplois de sylviculteurs, de planteurs, de scieurs, même de pépiniéristes. Et donc la place du bois, c'est juste comme l'a rappelé Julien tout à l'heure, le bois local, c'est de prendre sa place, d'essayer d'avoir un petit bout de marché pour pouvoir que la filière en entière puisse bénéficier des retombées économiques, et d'autant plus en ce moment où c'est un peu dur pour tout le monde.
Julien Barbier.
Pour revenir à nouveau sur les importations et le poids des importations, quand bien même on a un marché qui est peu dynamique, comme ça a été dit, on est quand même aujourd'hui sur des valeurs d'importation de l'ordre, en fonction des années, hein, on va osciller entre 1 milliard et 1 milliard 5. Donc des choses aussi qui, d'un point de vue balance commerciale. Et comme on le disait tout à l'heure, les objectifs que s'est assigné la filière locale, c'est de pouvoir fournir à terme, d'ici une bonne dizaine d'années, jusqu'à 10 000 mètres cubes. Mais potentiellement 10 000 mètres cubes sur un marché qu'aujourd'hui de 20, et comme on l'a dit, à Polynésie, il est double pour une même taille de population. Donc c'est vraiment là. Et donc, au niveau des importations, puisque c'était la question tout à l'heure des taxes ou des droits de douane, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus de protection de la production locale vis-à-vis de l'importation. Fut un temps, il y avait des systèmes d'attribution de quotas à l'import, etc. Donc toutes ces mesures de régulation n'existent plus aujourd'hui. Pendant très longtemps, je dirais au moins depuis 10-15 ans, c'est-à-dire le temps de monter en puissance de notre filière locale, a été opposé des exigences normatives, d'équivalentes, de qualité, etc. vis-à-vis des produits importés. Aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru depuis les sylviculteurs jusqu'aux opérateurs de la première transformation permet de répondre à ces différentes exigences et d'opposer, en termes de qualité, de reconnaissance et d'usage, partie de la production locale à ce qui était précédemment importé.
Alors, vous avez parlé les uns et les autres de la structuration de la filière, on est bien d'accord, mais surtout une augmentation de la production en bois local pour avoir, à terme, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de passer de 5000 m3 à 10 000 m3 dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça au niveau infrastructure? Est-ce qu'il y a suffisamment de scieries? Est-ce qu'il y a suffisamment de matériel? Est-ce qu'il y a suffisamment d'ouvriers qualifiés pour gérer toute cette filière? Comment voyez les choses, Charles Dereux? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Alors, vous allez peut-être pas me dire qu'il faut mettre des scieries en plus, parce qu'il va y avoir trop de concurrence.
Alors, ce qu'il faut surtout mettre en place, c'est de garantir, la continuité déjà des scieries qui sont actuelles. La continuité des scieries qui sont actuelles,
c'est... Ça veut dire que si vous dites ça, ça veut dire qu'elle ne s'est pas gagnée, cette continuité, aujourd'hui?
Aujourd'hui, non. Le paysage économique est relativement dur pour tout le monde, dont les scieurs. Effectivement, il nous faut des garanties à un moment donné pour pouvoir écouler notre marchandise, donc participer à la reconstruction de certains bâtiments, travailler avec les professionnels qui sont convaincus du pinus, le pin calédonien, pour pouvoir le mettre en œuvre. Effectivement, pour pouvoir arriver de 5000 à 10 000 m3, il y a des renforcements d'équipes, il y a des investissements à faire, mais aujourd'hui, faisons déjà les 5000 m3, 6000 m3, 7000 m3, la consommation en temps et en heure, pour pouvoir accompagner cette filière et créer à terme 500 emplois.
Mmh. Olivier Carin ?
Oui, effectivement, pour pouvoir garantir l'accès à une ressource, pour pouvoir garantir la continuité des unités de transformation telles que les scieries, au niveau de la sylviculture, nous avons vraiment besoin que les collectivités, quelles qu'elles soient, hein, on part de la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux communes, garantissent un réseau routier qui permette d'accéder aux forêts, mais surtout de pouvoir sortir du bois. On a quelques exemples sur la province sud où on ne peut pas sortir du bois par camion parce que la route n'a pas été renforcée suffisamment. Ce sont des vieilles routes qui datent des années d'après-guerre, hein, des années 50-60, qui étaient dimensionnées pour un trafic de l'époque. Et depuis, il y a eu notamment des exploitations forestières qui se sont installées. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une impossibilité de sortir du bois par camion. Et donc, les exploitants sont obligés de sortir des tout petits volumes de bois de la forêt, ce qui n'aide pas à optimiser les coûts d'exploitation. Et donc, de notre côté, à Sud-Forêt, on alerte les collectivités, la Nouvelle-Calédonie et les communes sur lesquelles nous avons des forêts, pour qu'elles prévoient dans leur budget le renforcement du réseau routier, ce qui permettra à terme qu'on ne soit pas confronté à une impossibilité de rouler avec des poids lourds, mais aussi garantir la sécurité des différents riverains autour desquels on a nos exploitations. Mmh. Et c'est pour la partie sylviculture, c'est un frein ou une contrainte majeure que l'on rencontre partout. C'est lié un peu à l'histoire, hein, de la sylviculture qui a commencé notamment dans la chaîne centrale proche des massifs forestiers sur lesquels étaient exploitées des forêts naturelles. Et donc aujourd'hui, ces massifs sont très éloignés des scieries et c'est compliqué d'aller chercher du bois à faible coût.
Est-ce que ce dont vous venez de parler, Olivier Guérin, n'illustre pas finalement parfaitement la nécessité d'avoir créé un TerboNC, c'est-à-dire plutôt que de laisser des producteurs seuls face à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le Nord, dans le Sud ou ailleurs, c'est faire quelque chose de commun pour pouvoir peser plus lourdement d'une certaine façon?
Complètement, ça participe. C'est pas la solution, c'est une parmi tant d'autres. Il faut qu'on se regroupe, il faut que le marché puisse être demandeur de bois local et ainsi inciter les collectivités à travailler en faveur aussi de la sylviculture pour résorber les problèmes que je viens de vous évoquer là d'accès au massif. Et donc oui, bien sûr, c'est un sujet. Le marché, de toute façon, c'est ce qui va tirer la demande locale, hein, la demande de bois. De matières premières.
Julien Barbier voulait revenir sur cette question d'accès à la ressource.
Pas forcément, mais revenir sur l'aspect structuration avant de passer sur d'autres choses aussi concrètes. Mais pour aussi peut-être anticiper des questions à venir, qui aujourd'hui, effectivement, on parle d'exploitation de l'essence qu'on appelle vulgairement le pinus. Voilà. Puisque c'est une essence qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver à l'extérieur, avec l'objectif de produire du bois de commodité avec des usages répandus et développés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute la méthodologie développée depuis les différentes études qu'on peut être menées, mais aussi la certification locale, puisqu'en fait, la certification, ce qui a été mis en place, c'est une plateforme de certification qui existe en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui a été développé pour le pinus a vocation à pouvoir être étendu à terme sur d'autres essences, d'autres types de production. Et on est aussi en capacité de pouvoir certifier des services, puisque aujourd'hui, on peut parler de certification notamment des entreprises qui vont appliquer des traitements curatifs, etc. Donc, pour dire que la démarche, aujourd'hui, elle s'ancre sur cette essence-là, mais elle a vocation à s'étendre derrière, et aussi pour élargir un petit peu le périmètre, puisque là, on est très centré construction, parce que c'est vraiment, on a une rencontre des acteurs amont-aval sur ce sujet-là. Mais l'ambition du projet aussi, c'est enfin aussi de pouvoir avancer concrètement sur notamment les points de valorisation des coproduits, des déchets, etc., différentes utilisations du bois. On peut parler de bois énergie, d'autres choses de ce type-là. Donc, pour vous montrer l'ambition. Et pour revenir sur l'essence pinus, du coup, au sein de ce projet, l'aspect structuration, qui doit prendre la forme, c'est vraiment l'action prioritaire sur cette année, avec l'objectif, sur la fin d'année, de constituer vraiment la structure interprofessionnelle. Pour cela, il y a un accompagnement qui a été cherché auprès de FIBOIS, qui est la Fédération des Interprobois à l'échelle métropolitaine, mais qui regroupe aussi les Outre-mer. D'ailleurs, il y a une mission d'appui qui arrive dans une dizaine de jours pour une semaine de travail et de consultation de l'ensemble de l'écosystème calédonien. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a des freins qui sont vraiment ciblés en action prioritaire sur ce projet, qui, je rappelle, aujourd'hui, il y a un programme qui est construit sur les 3 années à venir. Et le premier point qui la regroupe l'ensemble des acteurs, c'est d'apporter une réponse sur le problématique termite.
J'allais en parler.
Voilà. Donc, une problématique termite avec l'élaboration d'une stratégie locale, voire peut-être d'une réglementation à terme, mais en tout cas, que ce sujet soit appréhendé par l'ensemble des acteurs et traité de manière consensuelle, puisque c'est vraiment un des premiers freins, une première réponse à apporter, eu égard notamment à la sinistrose qu'il y a pu avoir il y a une vingtaine ou une trentaine d'années en Nouvelle-Calédonie sur l'aspect termite. C'est quelque chose qui est largement atteignable. On l'a vu sur l'exemple de La Réunion. Il y a une vingtaine d'années, La Réunion était dans le même, je dirais, environnement. Et aujourd'hui, ils ont complètement traité cette problématique termite. Et on voit l'usage et la construction bois se développer allègrement.
Charles Heureux, c'est important, cette organisation pour lutter contre les termites. C'est vraiment le seul handicap aujourd'hui de la production de bois en Calédonie.
Alors le seul handicap, non, mais aujourd'hui, effectivement, la peur de la termite est assez sensible, une peur de sinistralité. Donc oui, on doit tous travailler ensemble pour pouvoir établir des règles et également aussi une approche. Pour une bonne connaissance du bois, qui va nous permettre de pouvoir respecter les normes et ce qu'ils nous demandent, en termes de durabilité. Aujourd'hui, on a quand même des certifications traitement. Mais il n'y a pas que le bois. La termite, elle est aussi dans le sol. Il y a un environnement à étudier, à traiter, à discuter. Voilà.
Quelles sont les différentes phases maintenant que vous attendez? Interbois NC est créé. Hein, il a été porté sur les fonds baptismaux. Il existe. Aujourd'hui, les acteurs se regroupent. Quelles sont les prochaines étapes les plus importantes que vous voyez dans le projet? On peut peut-être que chacun d'entre vous porte d'ailleurs des attentes un peu différentes sur ça. On peut peut-être faire un dernier tour de table en commençant par vous, Manuel Henry.
Oui, alors moi ce que disait alors Interbois, c'est le nom du projet. On va justement cette année mettre en place l'interprofession avec l'aide de FIBOIS qui arrive le 20 juillet pour une semaine. Du coup, c'est de créer l'interprofession. Ensuite, on a beaucoup d'objectifs de levée de freins pour développer la filière, notamment le premier dont on vient de parler, les termites. Donc on va s'inspirer de ce qui a déjà été fait à La Réunion. On a déjà eu une personne du cluster qui est allée là-bas, qui en revient et qui a plein de choses à nous restituer par rapport à cette visite. Et du coup, nous, on a aussi un travail en tant que consommateur de bois par rapport aux forestiers, de nous ajuster, de nous mettre d'accord sur des, pour qu'eux soient plus productifs et nous, qu'on puisse utiliser voilà, les bonnes sections qui leur va bien à produire, en fonction de chaque scierie, parce que chaque scierie n'a pas les mêmes procédés. Et donc l'idée, c'est déjà de se mettre autour de la table et de s'accorder entre producteurs et consommateurs.
Alors côté producteurs, quelles sont les attentes de ce InterboNC dans les peut-être les prochaines initiatives ou les prochaines étapes? Charles Lheureux.
Bah effectivement, Manuel, ce qu'il disait, c'est de se réunir, définir la production pour pouvoir répondre au marché et aux besoins surtout. Les producteurs de la première transformation a pour but de pouvoir répondre à un marché et de valoriser une ressource locale. Donc le but est de vraiment produire, mettre en œuvre du bois pour tout le monde, surtout pour le monde calédonien.
Mmh. Olivier Guérin ?
Oui, écoutez, moi j'espère que, l'avenir proche nous dira, mais les premières réunions que l'on a eues avec Interbois me donnent de l'espoir, c'est-à-dire que on a échangé des informations. En tant que civiculteur, je me dois de rassurer les charpentiers notamment sur la ressource disponible. Les forêts, ça ne se voit pas, je vous l'ai dit, dans la chaîne centrale ou assez retiré des centres de consommation. Donc on ne sait pas ce qui se passe en forêt, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc notre rôle, c'est d'informer le reste, l'aval de la filière, sur la ressource en bois, et c'est aussi de pouvoir travailler avec ces métiers-là pour essayer de capter des marchés spécifiques qui demandent des sections spécifiques. Est-ce que nous on les a en forêt? Est-ce que c'est possible? Et entre le marché et le civiculteur, est-ce que les exploitants et scieurs sont disposés et peuvent produire les sections qui sont demandées? Donc vraiment, c'est une attente de communication entre nous tous pour qu'on puisse échanger les infos et pouvoir organiser au mieux l'arrivée du bois local sur le marché.
Alors, on s'aperçoit que finalement que InterboNC répond vraiment à une attente de tous les acteurs du bois en vous entendant. Dernière question peut-être pour vous, Julien Barbier. Il faut développer effectivement la production locale, on a bien compris, passer de 5 000 à 10 000 mètres cubes par an si on peut. Est-ce qu'un jour, si on regarde loin, on peut penser à exporter du bois calédonien? On n'est pas encore là. Hein.
Non, puisqu'on s'inscrit quand même dans un contexte régional peut-être fortement concurrentiel de ce point de vue-là, mais sur le marché calédonien, il y a beaucoup de choses à faire. On a parlé des freins, mais il y a aussi dans les axes prioritaires qui vont être développés, il y a tous les aspects accompagnement, formation, vulgarisation sur l'utilisation et le bon usage du produit bois, ce qui est souvent aussi à l'origine d'un certain nombre de sinistralités. Et aussi avec un axe fort de travailler sur des produits innovants. On parlait de pouvoir valoriser ce qui est aujourd'hui du déchet. On a fait des études prospectives sur la capacité du pain local à être collé, c'est-à-dire à pouvoir produire des produits type lamellé collé, qui sont très intéressants pour les charpentiers. Et en tout cas, d'un point de vue de l'agence rurale, in fine, ce que nous on recherche en extension de nos missions, qui est celui de la régulation et du soutien appui aux filières du monde rural, c'est vraiment de développer ce tissu économique de brousse, qui vraiment repose sur des emplois vraiment de qualité, en site très isolé, des emplois qui sont amenés à être de plus en plus qualifiés. Et d'ailleurs, on s'appuie là-dessus sur une étude qui avait été sortie en 2021 sur la potentielle diversification économique de la Nouvelle-Calédonie, qui projetait à horizon 2040 une filière forêt-bois calédonienne pourvoyeur de 400 à 500 emplois.
Mmh. Donc c'est pas rien.
Voilà. Et l'ambition du projet bois, c'est effectivement de se présenter en tant qu'interlocuteur pertinent et crédible au sein des différentes institutions en représentation de la filière. Et je voudrais juste témoigner effectivement moi de l'engouement que je partage autour de ce projet Interbois, ayant accompagné l'amont de la filière depuis un certain nombre de temps. C'est que, comme je l'avais cité en introduction, ce projet-là, il a fait appel en termes de financement à 5 bailleurs. Ça veut dire qu'aussi en se regroupant avec des intérêts et des appointances peut-être différentes, dans un contexte économique qui est très compliqué, nous a permis d'aller chercher. On est sur la plupart du financement qui vient de l'extérieur du territoire. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et notamment aussi, je pense que l'étape suivante en termes de financement, et là je fais un appel du pied notamment au collègue sylviculteur, c'est aussi de peut-être pouvoir s'inscrire sur le marché du carbone, du crédit carbone. En tout cas, il y a des sources de financement de ce point de vue-là. Et en se regroupant, on est plus fort là-dessus.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de cette structuration de la filière, de ces enjeux. On a bien compris que c'était un début, mais qu'il y a vraiment une attente vraiment de tous les professionnels du secteur pour que les choses avancent rapidement. On aura peut-être l'occasion de faire un point régulier dans cette émission. En tout cas, merci à tous les quatre. Oui, Olivier Guérin.
Je pourrais juste rajouter un dernier point sur la sylviculture, notamment, parce qu'on parle beaucoup de pinus. C'est le bois qui alimente la filière locale actuelle. Mais à Sud-Forêt, on gère près de 1500 hectares de forêts d'espèces locales, kaori, de pin colonnais. Le temps de production est beaucoup plus long que pour le pin. Et donc, ça, il faut attendre 80 ans. Et en attendant, il faut qu'on arrive à travailler le pin.
Je vous promets qu'on n'attendra pas 80 ans pour faire une nouvelle émission sur la filière. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau.